Bonjour à toutes et à tous, welcome dans Du Grain à Moudre, nous sommes à Londres dans les studios de la BBC. Aujourd'hui, Brexit, mais qu'est-ce qu'on leur a fait ? L'Union européenne, qui jusque-là n'avait cessé de s'élargir, pourrait donc bientôt perdre l'un de ses membres, et pas n'importe lequel, le moins docile d'entre tous. À peine avait-il fait son entrée dans le marché commun qu'il envisageait déjà d'en sortir. Dans moins d'une semaine désormais, le Royaume-Uni décidera s'il voit son avenir au sein de l'Europe ou bien en dehors. Ce qui ne ressemblait pendant longtemps qu'à une menace en l'air a fini par devenir envisageable avec l'organisation d'un référendum et désormais probable si l'on en croit les enquêtes d'opinion qui donnent tout aujourd'hui la victoire aux partisans du retrait. Brexit or not Brexit, avantage pour l'instant au premier. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir tout tenté pour retenir les Britanniques. En février dernier, l'Union européenne a même accepté de s'asseoir sur certains de ses principes pour accorder un statut spécial au Royaume-Uni, une place encore plus à part qu'elle ne l'est déjà, mais on dirait que rien n'y fait. Alors Brexit, mais qu'est-ce qu'on leur a fait ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Calypso Nicolaïdis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur de relations internationales à l'université d'Oxford. Vous dirigez le Centre de relations internationales. Vous avez, dans le passé, conseillé plusieurs gouvernements européens et plusieurs institutions européennes. Pour discuter avec vous, Robert Thoms, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur à l'université de Cambridge, spécialiste des relations franco-anglaises. Vous avez publié chez Armand Collin, c'était en 2012, « La France et le Royaume-Uni, des ennemis intimes ». Et puis notre troisième invité, c'est John Grawl, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à l'université du Middlesex, c'est à Londres, c'est une école de commerce. Vous travaillez particulièrement sur l'intégration européenne. Alors avant que d'entamer la discussion sur notre thème du jour, essayez un petit peu de comprendre pourquoi les Britanniques, en tout cas certains Britanniques, ont envie aujourd'hui de quitter l'Union européenne. Je voudrais juste peut-être vous demander un petit mot rapide sur ce qui a bouleversé la campagne depuis hier, à savoir l'assassinat de cette députée britannique Jo Cox en Angleterre, et elle faisait campagne pour le maintien. Est-ce qu'on peut dire, alors au-delà évidemment de l'émotion qu'a suscité cet assassinat, que c'est un événement qui pourrait être une forme de tournant de cette campagne, Robert Thoms?
Je ne pense que non, mais il faut dire que la température de cette campagne a augmenté d'une façon imprévue. Et après tout, ça semble avoir touché le cerveau d'un aliéné, en fait, qui a fait un geste qui est hyper rare dans l'histoire politique britannique. Donc c'est tragédie et, j'espère, unique. Ce n'est pas, je pense, le début d'un nouveau genre de violence politique qui est, comme j'ai dit, assez rare, extrêmement rare.
John Grawl.
Il y aura maintenant une petite pause dans les campagnes et les gens vont réfléchir. Mais selon quelques rapports, l'assassin a dit qu'il faut donner la priorité à l'Angleterre. Et si c'est ça, je pense que beaucoup de gens vont réfléchir un peu sur leur propre émotion et sur les divisions dans le pays actuellement.
Calypso Nicolaïdis, sur ce drame-là et l'idée que ça pourrait bouleverser, en tout cas ça la bouleverse la campagne, mais ça pourrait en tout cas considérablement la modifier.
Apparemment, Jo Cox était une femme extraordinaire et qui militait vraiment avec passion pour rester dans l'Union européenne. Parce qu'elle croyait en la coopération internationale, elle était Oxfam, etc. Et on se demande déjà aujourd'hui si, bien sûr, personne ne va dire que l'UKIP est responsable, les indépendantistes, mais il y a une ambiance de campagne, cette ambiance qui dit à tout le monde, non seulement on vous vole votre pays, etc., mais il faut que vous deveniez enragés. C'est la colère, cet appel à la colère. Et donc pour quelqu'un qui apparemment, le meurtrier, était assez instable, cette ambiance politique n'aide pas en tout cas. On ne sait pas encore, mais et je pense que vous avez tout à fait raison. Quelque part, est-ce que ça pourrait affecter l'ambiance du dernier 6 jours de campagne? C'est possible.
Alors c'est en tout cas dans cette ambiance que les Britanniques vont aller voter. Avant de vous demander vos points de vue comme analyste, peut-être comme citoyen britannique, Robert Thoms et John Grawl, est-ce que vous avez prévu d'abord d'aller voter le 23 juin? Est-ce que je peux vous demander si vous allez voter pour le Brexit ou contre le Brexit,
Robert Thoms? Moi, j'ai voté pour le Brexit, pour des raisons essentiellement politiques et européennes, je crois.
C'est-à-dire essentiellement politique, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais je pense que l'Union européenne est en train de miner la démocratie européenne dans presque tous les pays de l'Europe. On le voit d'une façon beaucoup plus aiguë qu'en Angleterre. Et que ces institutions sont irréformables. Et je pense que quand le bateau va vers les rochers, il devient rationnel de prendre le canot de sauvetage.
Voilà déjà un élément de réponse à la question qu'on pose. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Bon, ben ça c'est votre première réponse, Robert Thoms. John Grohl, est-ce que vous avez l'intention et de vous déplacer pour aller voter? Est-ce que vous avez déjà fait votre choix?
J'ai fait mon choix. Je suis d'accord sur le manque de démocratie en Europe. Et quelques moments, j'ai pensé à voter pour le départ, pour la sortie, mais je me suis mis en colère après le traitement des Grecs. On a les humiliés délibérément. C'est, au niveau humain, c'est inacceptable. Mais je vois dans la campagne pour sortir deux courants, les deux à droite. Une droite populiste et une droite néolibérale. Et j'ai peur des projets qu'on va poursuivre si la majorité est pour sortir.
Donc vous n'avez pas envie de mélanger votre voix avec la droite populiste, donc vous allez voter contre le Brexit, c'est ça?
Oui.
Calypso Nicolaïdis, alors vous, je ne vous demande pas si vous allez aller voter. Pourtant, logiquement, on aurait pu imaginer que d'abord, je ne veux pas trop raconter votre vie privée, mais c'est vous qui l'avez fait dans une lettre, vous expliquez que votre mari est britannique, que vos enfants sont britanniques, vous êtes citoyenne européenne, vous êtes franco-grecque, donc ça fait longtemps que vous vivez en Angleterre, et il aurait été assez légitime finalement que vous ayez la possibilité de participer à ce référendum. Or, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que vous le vivez d'ailleurs ça comme une forme, comment dire, d'injustice?
Tout à fait, Hervé. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Il y a 2 millions d'Européens non anglais qui ne peuvent pas voter, qui ont d'ailleurs beaucoup milité dans les mois avant la décision finale pour avoir ce droit de vote, parce que c'est ambigu. Bien sûr, on n'a pas le droit de vote dans les élections nationales, ce qui est un problème en Europe. Tous les Européens devraient pouvoir, d'une manière ou d'une autre, participer dans les autres pays européens. Et on s'est bien battu. Il y a un groupe qui s'appelle New Europeans qui a fait que ça pendant des mois. Ça n'a pas marché. Et donc, pour nous, les Européens non britanniques qui habitent ici, eh bien, on fait campagne. D'une part, sur le thème, nous payons nos impôts, nous participons à la vie à part entière. Et d'autre part, au nom des autres, au nom de ceux qui sont sur le continent, on dit à nos amis britanniques, restez aussi pour le reste de l'Europe.
Ouais, c'est-à-dire, c'est pas juste une campagne pour dire, nous, on voudrait pouvoir s'exprimer, pouvoir voter, mais c'est aussi une campagne que vous menez, Calypso Nicolaïdis, pour dire aux Britanniques, restez au sein de l'Union Européenne.
Restez au sein de l'Union Européenne, d'abord parce que moi, personnellement, et beaucoup d'entre nous pensons que c'est mieux pour vous, mais on va pas vous donner des leçons. Ça marche pas du tout pour les Anglais, on le sait. C'est pour ça que personne ne vient du continent faire campagne ici. C'est bien pour vous, on va y revenir évidemment, mais aussi l'Europe a besoin de vous, de votre pragmatisme, mais aussi de votre sens de l'importance de l'Europe dans le monde, de l'environnement, etc., et de votre leadership à Bruxelles. Et si c'est le cas, eh bien, il faut que vous restiez et que vous nous aidiez à réformer cette Europe pour répondre à Robert et même à John qui disent « mais l'Europe est irréformable ». Nous, on dit « l'Europe est réformable, aidez-nous à le faire ».
Alors, je reste encore un instant sur ceux qui ont le droit de voter à ce référendum et ceux qui n'ont pas le droit. Parce que là, il y a quelque chose qui peut paraître étrange. Donc, les citoyens européens, eux, n'ont pas le droit. En revanche, les citoyens du Commonwealth, c'est plus d'une cinquantaine de pays qui se trouvent sur le sol britannique, eux vont pouvoir voter. Est-ce que ça signifie, Robert Thoms, que finalement, au Royaume-Uni, on se sent davantage appartenir aujourd'hui à cette communauté importante mondiale qui est celle du Commonwealth, davantage en tout cas qu'à l'Union européenne?
Non, je ne pense pas en fait. C'est un accident de l'histoire. Comme les Irlandais ont le droit de voter, par exemple. Ça date des années 20. Et ce n'est pas, je pense, une réflexion d'une décision actuelle.
Mais est-ce que, au-delà peut-être en tout cas des règles électorales, est-ce que malgré tout, ce sentiment d'appartenance pour les Britanniques, il est encore très fort par rapport au Commonwealth? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a, disons, cette nostalgie de l'Empire britannique qu'on essaie comme ça de maintenir à travers cette organisation?
On le dit souvent, mais je pense que c'est une erreur. Il faudrait être bien vieux pour se rappeler de l'Empire britannique.
Et, vous savez, les Français se rappellent souvent de la Révolution française, hein, ils ne l'ont pas connu non plus.
Oui, mais je pense que c'est plutôt une question d'autonomie, de démocratie nationale, et ce n'est pas vraiment une nostalgie pour l'Empire. On dit, par exemple, qu'il faut garder les relations avec les nouveaux pays, comme on parle souvent de la Chine et de l'Inde, mais ce sont plutôt parce que ce sont des gros marchés, pas parce que l'Inde est un ancien pays du Commonwealth.
Il y a un de vos collègues historiens que vous devez connaître, j'imagine, Robert Toms, David Abulafia, j'espère que je prononce bien son nom, qui est spécialiste d'histoire maritime, qui dit notamment ceci: nos bateaux ont toujours regardé vers l'Europe, mais aussi vers le reste du monde. Dans un univers mondialisé, mieux vaut avoir une vision mondiale plutôt que seulement européenne.
Oui. Oui, ça c'est sûr, mais ce n'est pas une vision impériale. On regarde plutôt vers les États-Unis, par exemple, qui étaient toujours un énorme partenaire économique et aussi culturel, mais aussi vers l'Asie. Et c'est une question probablement de culture et d'histoire. C'est vrai que les Anglais qui se sentent, je pense, européens, on passe pas mal de temps en Europe, après tout. On est un pays européen, mais on est aussi un pays un peu assez globalisé. Et ça depuis des siècles. Et je pense que ça donne probablement une sorte de vision du monde et une culture qui est un peu différente de celle de pas mal d'autres pays européens.
L'Europe est peut-être un peu trop petite pour les Britanniques, Calypso Nicolaïdis.
Absolument, et là Robert a raison. On entend beaucoup les globalistes pour le Brexit qui nous disent « Non, vous avez tort, vous les Européens. Nous, c'est pas la petite Angleterre, nous, c'est la Grande-Bretagne, vraiment grande. » Et il y a peut-être l'aspect retour sur le passé chez les plus âgés, la nostalgie d'Empire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un discours « l'avenir ». Il y a une fascination pour les pays émergents. Il y a le cosmopolitisme londonien à la Boris Johnson. Alors après, vous pouvez dire qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il raconte, que c'est un discours, que tout ça, c'est des ambitions politiques. Mais en tout cas, il le dit bien. Il est même pro-Turquie et très ouvert au monde. Et par ailleurs, je dirais que l'appel au Commonwealth permet de façon très futée au camp des Brexiteurs de dire « Voyez, nous, on n'est pas racistes, notre anti-immigration, c'est l'emploi, c'est toutes sortes d'autres choses. Mais on veut que nos amis pakistaniens, indiens, etc. puissent vraiment être avec nous. » Et alors c'est ironique, je dirais, comme finalement par parenthèse, parce que moi j'ai beaucoup, à Oxford nous avons beaucoup d'amis effectivement du sous-côté du continent indien, qui disent « Oulala, non mais nous c'est pas ce qu'on veut, on vient en Angleterre parce qu'on veut aussi avoir accès à l'Europe, donc ne nous utilisez pas pour dire non à l'Europe ».
Donc John Grawl, finalement, si les Britanniques veulent sortir, certains Britanniques veulent sortir de l'Union européenne, ça n'est pas parce que vous ne nous aimez pas ou parce que vous ne nous aimez plus, c'est parce que vous voulez peut-être embrasser davantage le monde entier et que voilà, que cette Union européenne est un peu trop restreinte finalement pour vos ambitions et pour votre amour démesuré pour les autres.
Je pense que la situation britannique un peu ressemble en beaucoup de choses à la situation dans l'Occident en général. Il y a un rejet des élites, il y a la colère sur le niveau de vie, sur le chômage, sur les pressions sur les services publics. Il y a tout ça. On peut penser au Front National en France, à la campagne électorale aux États-Unis. Et à droite et à gauche, il y a les mécontentements, le chagrin un peu pareil. Donc, il faut pas voir un phénomène tout britannique ici. C'est plutôt quelque chose d'assez général, je pense.
Sauf que John Grawl, en France, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de référendum qui est organisé pour dire la France va quitter l'Union européenne. Le seul pays à le faire, c'est quand même le Royaume-Uni.
Mais comme Robert l'a dit, c'est un peu un accident. Notre Premier ministre était confronté par UKIP, le Parti pour l'indépendance, un parti populiste. Et il a promis un référendum. Mais il a pensé à ce moment qu'il ne faudra jamais honorer cette promesse. Parce qu'il ne s'attendait pas à gagner l'élection. Après l'élection, alors, il faut continuer avec le référendum. Mais c'est un embarras pour lui, pour la plupart de la classe politique en Grande-Bretagne.
Robert Toms, est-ce que vous diriez que finalement ce rejet de l'Europe qui est exprimé à travers ce référendum britannique, ça n'est qu'un rejet parmi d'autres, ou bien est-ce qu'il a quand même des spécificités qui sont typiquement britanniques?
Oui, il y a des spécificités, je crois. Et je suis d'accord que M. Cameron joue le rôle de l'apprenti sorcier, mais il y a une histoire assez longue avec nos relations avec l'Europe. Moi, je dirais que c'est parce que nous avons moins peur des conséquences de la sortie. En partie parce que le souvenir, le mémoire national du XXe siècle est beaucoup moins noir que dans la plupart de l'Europe. Donc en France, permettez-moi de le dire, on a peur, on avait peur, on a encore un peu peur de l'Allemagne. En Grèce, on a peur de regresser à l'époque des colonels. En Espagne, on est hanté encore par le souvenir de la guerre civile, etc. Et donc l'Europe a été la façon de s'échapper de sa propre histoire.
Ce qu'on dit beaucoup, effectivement, sur le continent, disons, appelons-le comme ça, c'est que l'Europe a amené la paix. Au Royaume-Uni, on ne le vit pas de cette manière-là.
Non, pas du tout, je crois, en général. Et je pense que c'est faux, de toute façon. Ce n'est pas l'Union européenne qui a amené la paix.
Ou en tout cas, qui l'a préservée.
Oui. Peut-être, mais les démocraties ne font pas la guerre entre elles, ça ne s'est jamais produit. Mais c'est plutôt que les Anglais ont toujours considéré, ça a toujours été vendu, si vous voulez, comme une association économique, plus ou moins pratique, pas vraiment idéaliste. Alors si maintenant on dit, mais dans les années 60, ça semblait marcher très bien, maintenant ça semble pas marcher du tout, alors pourquoi rester à quelque chose qui fonctionne mal? Alors il n'y a pas cette émotion, cet idéalisme européen en Angleterre, ou beaucoup moins, je crois.
John Groles, est-ce que les Anglais, les Britanniques, quand ils sont arrivés en Europe au début des années 70, après avoir manifesté leur envie de le faire dans les années 60, est-ce que c'était uniquement pour des raisons économiques? Est-ce que c'est à partir du moment où ils se sont rendus compte que le projet allait au-delà d'une simple union économique, qu'ils ont commencé à se dire, tiens, on nous a peut-être menti finalement sur ce qu'est l'Europe?
Je pense que on a adhéré à la communauté européenne d'abord pour les raisons économiques. Et pendant les années 50 et les années 60, il y avait une forte croissance en France, en Allemagne, et une performance beaucoup pire en Angleterre. Donc, on a vendu le projet, comme le dit Robert, comme un projet économique pour la Grande-Bretagne. Et à cette époque, le référendum de 1975, il y avait une forte majorité pour rester.
Voilà, parce qu'il faut rappeler hein, peut-être, donc le Royaume-Uni intègre la communauté économique européenne en 1973, il y a un changement de gouvernement, une renégociation, alors qui n'était pas tout à fait la même que celle évidemment qui vient d'avoir lieu, mais enfin on peut dire que sur le principe c'était assez proche, et derrière il y a un référendum pour dire est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on sort. Tiens, est-ce que je peux vous demander d'ailleurs, John Groles, je ne sais pas si vous aviez le droit de vote à l'époque, mais si
oui,
vous avez voté, vous avez voté pour quoi vous en 1975?
J'ai voté contre. Parce que à ce
vous
moment,
avez voté contre, c'est-à-dire vous avez voté pour le départ du Royaume-Uni.
Pour le départ, bien sûr, parce qu'à ce moment, il y avait un projet rationnel et cohérent pour ce qu'on allait faire hors de la communauté. Maintenant, je ne vois pas ce projet. Je vois deux projets à droite. Un projet contre les immigrés, les Polonais surtout, et un projet marchand pour les droitistes qui prennent le départ. Sont les ultra-libéraux. Ils sont des disciples de Thatcher, mais qui pensent que la révolution thatcherienne n'est pas achevée. Il faut aller plus loin. Ils veulent une déréglementation pour attirer les capitaux de tout le monde. C'est là leur globalisme. Donc, je ne vois pas un projet démocratique pour sortir.
Alors je vais tout de suite revenir vers Calypso Nicolaïdis, mais évidemment j'ai envie de vous poser la même question à vous, Robert Tamps, par rapport à ce référendum de 1975. Je ne sais pas si vous avez voté à l'époque.
Oui, j'ai voté pour rester.
Alors, vous avez fait le chemin inverse, finalement, de John Groles. Alors, expliquez-nous, là. Pourquoi vous vouliez rester à l'époque?
Il faut que j'essaie de me souvenir, mais je pense que c'était une époque où la Grande-Bretagne semblait, en fait, toucher... au fond, c'était une période où on manquait de confiance... dans le pays, qui semblait devenir ingouvernable. L'économie, comme a dit John, marchait très mal. Notre position dans le monde semblait beaucoup plus faible que dans le passé. Alors, pour beaucoup de gens, et surtout pour la classe politique, c'est une question d'essayer d'augmenter l'importance de la Grande-Bretagne dans le monde. Et donc, comme a dit un des conseillers de Monsieur Wilson, l'Angleterre, c'est le Titanic et l'Europe, c'est le canot de sauvetage. Maintenant, je pense que c'est un peu le contraire.
Calypso Nicolaïdis, qu'est-ce que ça vous inspire finalement, ces itinéraires croisés entre Robert Tamps et John Groles? Est-ce que ça caractérise finalement plutôt bien ce qu'est peut-être l'évolution aussi du sentiment européen chez les Britanniques?
Tout à fait. Et d'abord, je pense que nos auditeurs français peuvent bien voir qu'il y a de la passion ici, en Angleterre, au Royaume-Uni, sur l'Europe. Donc cette idée qu'on a en France, que les Anglais, ils sont loin, ils s'en fichent de l'Europe, ou ils ne pensent qu'à l'Europe marchande, c'est faux. Il y a une vraie passion ici.
Ça veut dire qu'il va y avoir quoi, 90% de gens qui vont aller voter jeudi prochain?
En tout cas, je pense qu'il y aura plus que 50%. Et c'est important. Et je dirais plus généralement que quand nous avons cette discussion sur le rejet et sur l'exceptionnalisme anglais en quelque sorte, c'est vrai, tout ce que vient de dire Robert et John est tout à fait vrai sur l'Angleterre. Mais en même temps, je pense qu'on raterait quelque chose en tant qu'Européens de ne pas se dire, en fait, les Anglais nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes. D'une part, parce qu'il ne faut pas non plus penser que le rejet est une majorité des Anglais. Imaginez qu'il y ait 51% pour sortir jeudi prochain. Sachant que, en fait, tous ceux qui veulent sortir votent, parce qu'ils sont passionnés. Alors que ceux qui veulent rester, ils sont plus ou moins passionnés, plus ou moins indifférents. Donc, ce serait 30% des Anglais. Bon, c'est peut-être plus que dans la plupart des pays européens, mais pas tant que ça. Donc, pour moi, c'est une question de degré.
Et deuxièmement, vous me rappelez un petit peu le discours des responsables politiques français au lendemain des élections en disant « Oui, mais regardez, vous n'êtes pas complètement majoritaire parce que si on prend les abstentionnistes,
c'est vrai,
ils sont à notre camp. »
Il faut être démocrate, donc je ne contesterai pas du tout le résultat du scrutin. Mais il faut s'en rappeler, quand même, ce n'est pas une majorité des Britanniques, quoi qu'il arrive, qui veuillent sortir. Mais deuxièmement, John vient de nous dire, voyez, moi, d'un point de vue de gauche, je vois que le rejet, c'est un double rejet de droite, anti-immigré et ultra-libéral. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un autre rejet, c'est, qui est celui des perdants de la globalisation. C'est le même rejet qu'on voit dans toute l'Europe, y compris en France. Il y a toujours des perdants et des gagnants, mais on n'a pas bien redistribué les gains. Et ça, c'est un thème dont vous avez souvent parlé dans le grain à moutre, qui est très important, qui nous parle dans toute l'Europe. Et je dirais donc plus généralement que si on regarde les trois catégories de rejet en Angleterre, ils sont tous vrais dans le reste de l'Europe. Le rejet nationalo-xénophobe, hyper minoritaire mais important, et pas seulement dans les classes les moins privilégiées, mais aussi chez les privilégiés huppés qui disent « I want my country back ». Il y a effectivement les globalistes dont nous avons parlé tout à l'heure, des plus rétrogrades aux plus ouverts. Et puis, il y a ces rejetés de la globalisation. Ça, c'est vrai dans le reste de l'Europe aussi. C'est les proportions qui sont différentes, le langage, etc.
Mais est-ce qu'on ne peut pas ajouter un élément d'explication? Et là, puisque nous sommes dans les studios de la BBC à Londres, je ne peux pas faire autrement que de citer Winston Churchill, qui s'exprime en 1955 devant la Chambre des communes à propos de l'Europe. « We are with Europe, but we are not of Europe. » Europe. Calypso Nicolaïdis, je vous laisse faire la traduction, vous serez la meilleure peut-être pour le faire. We are with Europe, but we are not of Europe.
On est toujours avec l'Europe, aux côtés de l'Europe, mais pas dans l'Europe, ne faisant pas partie de l'Europe. Est-ce qu'il exprimait ce que tous les Anglais pensaient? Je n'en suis pas sûr.
Et bon, on va demander à Robert Thames et à John Gaulle. Robert Thames.
Mais aussi, le général de Gaulle a dit que Churchill lui a dit que l'Angleterre choisirait toujours le grand large. C'est une citation que tous les Français connaissent, je crois.
Il faut rappeler d'ailleurs que le général de Gaulle ne voulait pas de l'arrivée des Britanniques sein de la.
Et en fait, on peut dire qu'il avait raison, mais parce qu'il avait peur que les Anglais
soient le cheval de Troie des États-Unis.
Mais c'est ça qu'il a dit, oui, c'est sûrement le cas. Et on dirait que ce qu'a dit président Obama fait croire qu'il avait raison. Mais la question de la position de l'Angleterre émotionnellement vis-à-vis de l'Europe et du monde est, je pense, moins important. C'est là dans une sorte d'arrière-fond. Mais il y a toujours des questions pour la plupart des gens sont très pratiques. Et la campagne a été sur les prix, sur l'emploi, sur les salaires, etc. Alors, pour penser que, après nous sommes des intellectuels, plus ou moins, et nous pensons dans des termes généraux, mais pour la plupart des gens, je pense que c'est plutôt une question pratique. C'est pour ça que l'immigration est importante. Il ne faut pas le négliger, je crois. Parce que la Grande-Bretagne, et surtout l'Angleterre, est dans une position unique, dans le sens où on a eu depuis pas mal d'années des nombres d'entrées qui est grande, qui est dans les probablement 200 ou 300 000 par an ou plus, et c'est prévu de continuer pendant au moins une vingtaine d'années. Donc nous pensons d'ajouter à la population actuelle, qui est déjà grande pour une île, à moitié de la superficie de la France, encore une population de 5 ou 6 millions. Alors il faut au moins réfléchir sur la sagesse de cette politique.
J'ai que John Groll hochait un peu de la tête là,
oui,
pendant votre intervention.
Je pense que l'hostilité à l'Europe n'est pas aussi rationnelle que Robert le suggère. Je pense qu'il y a deux boucs d'émissaires ici. Les immigrés, pour tout le, qu'on blâme pour tous les embarras, tous les chagrins dans la vie. Et aussi, Bruxelles et l'Union européenne étaient toujours un bouc d'émissaire. Toutes les choses qui ne marchent pas dans l'économie, dans la politique, on dit toujours c'est la faute de l'Europe. Et donc, je pensais que c'est une situation où les gens sont moins rationnels qu'on peut le proposer.
Par rapport à cette, justement, par rapport à cette critique sur, si ce n'est l'absence de démocratie des institutions européennes, mais enfin en tout cas le problème démocratique, disons, qui aurait lieu à Bruxelles, je voudrais vous citer l'extrait d'un article d'un magazine qui s'appelle Spiked. Enfin, je crois que c'est un magazine qui est à Londres, qui est cité dans le dernier numéro de Courrier International, et un éditorialiste qui explique ceci. « Loin de faire émerger une saine démocratie nationale, le Brexit mettrait à nu une crise nationale de l'autorité. Les problèmes de la politique britannique ne pourraient plus être reprochés à Bruxelles. » Est-ce qu'en quittant l'Union européenne, Robert Temps, les Britanniques ne se retrouveraient pas face à eux-mêmes, face à leurs problèmes politiques, et ne se rendraient peut-être finalement pas compte que, parce qu'ils reprochaient à l'Europe et à Bruxelles, ils peuvent très bien le reprocher au personnel politique britannique.
Il y a des personnes qui disent que c'est exactement ça qu'il faut. Qu'il ne faut pas que les hommes politiques puissent se cacher derrière Bruxelles. Mais je pense quand même que John exagère un peu. Je ne vois pas que tout est jeté sur Bruxelles. Tous nos problèmes ne sont pas mis à la porte de l'Europe. Et je ne trouve pas personnellement une hostilité aux immigrés en tant que personne. Il n'y a pas de violence contre les immigrés, comme on le voit en Allemagne assez souvent, par exemple. Et je pense que c'est plutôt une question de crainte d'un processus qui est incontrôlé et que Cameron a essayé de changer la politique européenne sur le mouvement des peuples sans succès.
Donc, est-ce que c'est une crainte en se disant il y aurait peut-être une atteinte à ce que serait l'identité britannique et à l'exceptionnalisme britannique?
Oui, probablement. Et ce n'est pas tout à fait irrationnel. Si on a une grande population qui arrive en peu de temps. Donc, c'est clair que ça change un pays, c'est évident. Pour le mieux, mais pas seulement pour le mieux.
Calypso Nicolaïdis.
Un des problèmes sur cette question de la souveraineté et on veut être en contrôle, c'est d'ailleurs un thème très gaullien qu'on entend effectivement, qui est au centre de la campagne. C'est que souvent les Anglais sous-estiment leur influence à Bruxelles. De même que les Français ont tendance à la surestimer. C'est nos caractères nationaux, je ne parle pas d'humilité, c'est bon. Il y a plein de raisons. Et donc, ils ne voient pas qu'en fait, souvent, on peut dire, voilà, l'Europe magnifie notre pouvoir. Ça nous donne plus de contrôle. Mais je dirais que là, il faut faire une distinction très importante qu'on n'a pas encore faite, c'est les jeunes. Parce que moi, je suis prof, on a fait plein de débats à Oxford et ailleurs et dans les écoles. Et alors ça, les jeunes le voient. Et c'est pour ça que trois quarts des jeunes, ceux qui voteront en tout cas, et j'espère qu'ils voteront, vont voter pour rester. Parce qu'ils savent très bien que quand il s'agit d'environnement, de droits de l'homme, etc., Bruxelles les aide. Il y a un sketch
très... Mais ça, c'est parce qu'ils vous ont comme prof et que vous leur expliquez ça.
C'est vrai, mais je ne suis pas la seule. Mes collègues le disent très bien. Et on essaye de leur dire qu'il faut voter, mais pas comment il faut voter quand même. On fait attention. Mais on sait qu'ils vont sur Facebook. Et alors, sur Facebook, vous voyez des sketchs extraordinaires. Il y a par exemple Patrick Stewart, vous savez, de Star Trek. Celui qui joue dans Star Trek, qui a fait un sketch magnifique, où il est un premier ministre, et puis il dit « Mais qu'est-ce que l'Europe a fait pour nous ? Et ces singes français qui mangent du fromage, on en a marre. » Et alors, il y a son cabinet qui, petit à petit, leur dit « Mais vous savez, il y a le droit de ceci, le droit de cela. » Et à la fin, ils disent « Mais... » Lui, il dit « Ben voilà, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que nous, on leur écrive une convention des droits de l'homme bien britannique et qu'on leur impose. » Et il y a son chef de cabinet qui lui dit « Mais vous savez, c'est ce qu'on a fait après la guerre, c'est la convention européenne des droits de l'homme, c'est nous qui l'avons écrit. » Et alors il s'en va en claquant la porte. Et donc voilà, ça c'est le message. On peut utiliser l'Europe pour des choses importantes pour les Britanniques. Ce dont on est fier, la Magna Carta, on peut l'exporter à Bruxelles.
Les Britanniques, John Grohl, ne se rendent pas suffisamment compte du poids politique qui est le leur au sein de l'Union européenne ?
Le débat devient de plus en plus étroit ici. Il y a sur la campagne pour sortir une seule chose, l'immigration. pour la campagne pour rester, le maintien, une seule chose, l'économie. Donc, l'avenir de la société, nos rapports avec l'Europe, avec le Commonwealth, tout ça est oublié. Oui, et c'est deux choses. Donc, c'est un peu une bataille entre la peur et la colère. Oui, et peut-être semaine prochaine, c'est la colère qui va gagner.
Calypso Nikolaïdis parlait de ses étudiants et du fait que peut-être que les jeunes n'ont pas tout à fait la même approche de l'Europe que les autres générations. Est-ce que vous constatez ça également?
Peut-être il n'a pas ce souvenir de la Grande-Bretagne comme une grande puissance. Peut-être ça c'est possible. Mais aussi il y a des occasions, des possibilités pour les jeunes dans l'Europe qui sont assez positives. On peut voyager, on peut chercher un emploi, on passe plus de temps en Europe et comme ça. Donc, je suis d'accord avec Calypso, les gens sont plus européens.
Robert Toms.
Oui, c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui les touche assez peu, je crois. Les jeunes semblent, selon les sondages, sont pour l'Europe comme ça. Une de mes étudiantes m'a dit, mais j'ai toujours connu ça me semble normal et je ne vois pas pourquoi on changera la situation. Mais ils sont assez faiblement pour l'Europe et c'est pour ça qu'on craint, ou plutôt que Calypso craint qu'ils ne vont pas voter. Mais c'est aussi basé souvent, je crois, sur l'ignorance. Après tout, on parle souvent de l'avenir des jeunes et des intérêts des jeunes, mais on pense pas beaucoup aux jeunes en Grèce ou aux jeunes en Espagne. On pense plutôt aux privilèges que donne l'Union européenne aux jeunes britanniques qui peuvent voyager, puis peuvent aller à l'université en France ou en Allemagne, mais on ne pense pas beaucoup à la situation véritable des jeunes en Europe. Et on n'a pas parlé de ça, je crois, beaucoup. Parce qu'il me semble que ce qui compte le plus en Europe, c'est l'euro. C'est ça qui crée les dégâts en Europe. Et c'est ça que me semble impossible à changer. Donc l'Europe est coincée dans une situation économique et sociale assez catastrophique. Et je ne vois pas de sortie. Je ne sais pas si Calypso en voit.
Calypso Nikolaïdis.
Mais c'est ça bien l'ironie de ce référendum, c'est que Cameron a raison de dire que finalement on est dans le meilleur des mondes, puisque ce qui ne marche pas en Europe, et effectivement dans ce référendum, beaucoup disent « mais attendez, regardez cette Europe qui n'en finit pas de ne pas réussir à se réformer ». Alors nous on a essayé, parce que finalement il ne faut pas oublier que les négociations étaient avant tout, Cameron voulait réformer l'Europe avant de demander des exceptions. Il ne l'a pas obtenu, donc c'est devenu des règles exceptionnelles pour le. Mais il y avait quand même un but.
Voilà, notamment sur le versement de droits sociaux, voilà, aux citoyens européens extra-britanniques.
Ça devrait être pour toute l'Europe. Mais après tout, pour ce qui est de l'union monétaire, on n'est pas dedans. Et c'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des effets asymétriques. C'est-à-dire qu'il y a des choses pas bien en Europe, mais que l'Angleterre n'a pas à appliquer. Et de même qu'il y a parfois des règles européennes qui touchent de façon plus dure la Grande-Bretagne. Ça va des fonds de pension au problème de l'accès à la santé, parce que le NHS, qu'ils adorent, hein, c'est une sorte de passion pour leur NHS qui est vraiment communiste, le système de santé, eh ben, vous rentrez dans un hôpital, on vous demande même pas votre carte d'identité. Donc c'est vrai que c'est plus sensible à l'immigration. Et puis effectivement, l'immigration, il faut le reconnaître, mais c'est un moment temporaire, mais c'est vrai que cette immigration de 300 000 tous les ans en Angleterre est inégalée en Europe. Donc effectivement, il faut reconnaître cette asymétrie et il faudrait effectivement que l'Europe devienne plus flexible, qu'elle prenne en compte ces différences. Mais en tout cas, je dirais quand même, Robert, que les Grecs, en leur grande majorité, veulent rester dans l'UE et le disent aux Anglais, leur disent « regardez tout ce qu'on a subi de Bruxelles et pourtant nous on veut rester ».
Peut-être que si les Européens arrêtaient de considérer les Britanniques comme bénéficiant toujours d'exceptions qui sont à leur avantage et arrivaient justement à comprendre un peu mieux le fait que bah, pour les Britanniques, il y a aussi certains inconvénients à se trouver dans l'Union Européenne, ça passerait un peu mieux et il pourrait y avoir comment dire une réconciliation entre cette grande île et le continent, Robert Toms.
Mais nous sommes périphériques maintenant, périphérales. Nous ne sommes pas dans l'euro, c'est ça l'essentiel. Et c'est peut-être une décision plus importante que le référendum. La décision qui a été prise il y a quelques années de ne pas rentrer dans la zone euro. Mais ça veut dire qu'on est de moins en moins au cœur de l'Europe. Et si l'Union va exister, il faut créer une sorte de gouvernement économique pour l'Europe. Tout le monde le dit. Alors nous sommes de toute façon en dehors de ce gouvernement économique de l'Europe. Donc nous ne sommes pas dans l'Europe, au centre de l'Europe.
Donc c'est une forme de sacrifice finalement, vous nous dites, les Britanniques s'ils s'en vont de l'Union Européenne, c'est pour permettre à l'Union Européenne d'avancer plus
mais
rapidement.
J'ai pensé que M. Cameron serait capable de négocier une sorte de recognition de notre position qui est un peu extérieure, mais il n'a pas pu le faire. Et il me semble, ou il me semblait, je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que c'est devenu extrêmement émotionnel, comme tout le monde le sait, que ça aurait été peut-être mieux si on avait dit calmement, écoutez, amis européens, nous ne sommes pas dans l'euro, ne faut-il pas négocier un statut qui est logiquement séparé de celui de l'Union européenne? Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Cameron n'a pas pu le faire. Alors nous sommes obligés de choisir, si on le veut ou non, de rester ou de quitter. C'est peut-être pas une bonne chose, mais c'est ça la choix que nous avons.
John Grohl.
On parle très peu de l'avenir de l'Europe dans ce débat actuel en Angleterre. On parle de l'avenir de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Mais je suis absolument d'accord avec Robert sur les problèmes de l'eurozone. Ces problèmes sont pires parce qu'on essaie de rendre les contraintes économiques, de donner un statut constitutionnel. Il n'y a pas de raison pour voter pour une politique keynésienne en Europe parce que le keynésianisme, c'est criminel. C'est dans les lois, dans les traités. Hein? On a maltraité, comme disent les Français. Mais pour contrecarrer, pour essayer de changer l'Europe, il faut la présence de la Grande-Bretagne, absolument, parce que c'est un problème de l'hégémonie allemande. Oui, c'est les Allemands qui insistent sur ces politiques dysfonctionnelles, toujours.
Et donc si on ne veut pas qu'il y ait d'hégémonie allemande, il y a besoin des Britanniques en Europe.
La seule possibilité de contrecarrer, c'est la présence active de la Grande-Bretagne dans la communauté.
Et c'est pour cette présence active de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne que vous militez, vous, Calypso Nicolaïdis, même si, comme je le disais au début de l'émission, vous n'aurez pas le droit de vote. Et vous avez adressé une longue lettre à vos amis britanniques ou amis anglais, je ne sais plus quel est le titre, Letter to My British Friends. Une lettre à mes amis britanniques. Et je voudrais juste que vous lisiez les trois ou quatre dernières phrases de cette lettre. Peut-être d'abord en anglais, puisque c'est comme ça que vous l'avez écrite. Puis après, vous nous direz ce que vous leur dites à vos amis anglais.
Oui, parce que le français des Anglais, il vaut mieux leur écrire en anglais.
Et voilà, commencez par le mien.
Et je leur dis avec passion, à la fin de cette lettre, « Sure, you have far-flung cousins on the other side of the pond and the other side of the world, les cousins australiens et américains. But these are just that, distant relatives who happen to speak your language. » C'est d'accord, ils parlent anglais. Hey, we all manage to speak some kind of English, too, on the other side of the channel, albeit with different and funny accents. Nous aussi, on parle l'anglais, même si on a un accent. And in these funny accents, we kindly request your utmost attention to our plea. Écoutez-nous. You are more at home in this infuriating EU of ours than anywhere in the world. Please stay home. Restez chez nous. Restez avec nous.
Ah, vous voyez, voilà. Certes, vous avez des cousins un peu partout dans le monde qui partent parfaitement anglais. Nous, les Européens, on essaie de faire de notre mieux avec des accents un petit peu bizarroïdes. Mais quand même, voilà, il faut que vous restiez chez nous parce que votre vraie maison, elle est ici. Quoi.
On est une famille dysfonctionnelle, on a plein de problèmes, mais quand on ne s'entend pas avec sa famille, ben on ne part pas pour toujours. On essaye de s'entendre. Et c'est pour ça que j'ai créé avec des amis, en particulier à Paris, à Sciences Po et ailleurs, une Facebook page qui s'appelle Britain Please Stay et qui appelle tous les Européens, y compris les Français, à faire des petites vidéos de 15 secondes pour donner leur message, un peu un message d'amour. Peut-être d'amour frustré, mais d'amour quand même.
Eh ben, on verra si ces conseils matrimoniaux porteront ou pas jeudi prochain, s'il y aura divorce ou pas. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. John Grohl, Calypso Nicolaïdis et Robert Thoms. Merci également aux équipes de la BBC à Londres pour nous avoir permis de réaliser cette émission. Un grand merci également à toute l'équipe du Grain, à Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Tanguy Omri. Émission réalisée par Benjamin Hu avec à la prise de son Fabien Gosset. Lundi, nous nous retrouvons à 18h20 pour Le Grain avec la question suivante. L'État islamique a-t-il encore besoin d'une armée pour frapper ? Tout de suite, c'est Ping Pong, Mathilde et Martin. Bonsoir.